RMB, question d'actualité.
RMB matin, 7h15, on retrouve Cédric et son invité.
Va-t-on enfin vers une amélioration de l'offre de soins et trouver des solutions face aux déserts médicaux comme sur la région montluçonnaise? Le sujet fait en tout cas l'actu au niveau national et on en parle avec l'un des acteurs principaux des débats, le sénateur de l'Allier, Bruno Rejoint. Bonjour.
Bonjour à tous.
Bon, on se remet dans le contexte donc avec d'autres sénateurs. Vous avez bossé là-dessus depuis un moment. Il y a eu un rapport, vous avez fait le tour un petit peu de tous les acteurs concernés. Rappelez-nous, hein.
Depuis 3 ans, hein, nous travaillons là-dessus au Sénat, avec une particularité, c'est que nous avons mixé 2 commissions, la commission des affaires sociales et la commission aménagement du territoire, et moi j'appartiens à la commission aménagement du territoire, pour essayer enfin d'avancer concrètement sur un certain nombre de points qui concernent l'accès aux soins, sans aucun tabou. Et surtout, en pensant d'abord au patient, le patient en priorité, et après les médecins. C'est un petit peu le problème qu'on a depuis quelques années, c'est qu'on patine dans la semoule parce que on place obligatoirement les professionnels de santé, et notamment les médecins généralistes en situation numéro 1, et on oublie un peu les patients et leur attente. Voilà un petit peu comment on essaie de renverser les choses dans ces derniers mois, et peut-être avec les votes qui vont arriver au mois de mai, où on va effectivement véritablement voir si on arrive à dégager des majorités sur un certain nombre de points dont je suppose que l'on va parler, essayer d'avancer concrètement pour que les Français constatent rapidement un certain nombre d'améliorations.
Oui, les propositions justement qui chagrinent certains médecins. On l'a vu, il y a eu des
mobilisations. Bien sûr, mais moi,
c'est ce que vous avez dit, hein, justement.
Je l'ai dit toujours.
Plutôt que de mettre en avant en premier les médecins, le patient d'abord.
Voilà,
c'est ça qui forcément chagrine un petit peu.
Il ne s'agit pas d'oublier les médecins. On a besoin, bien sûr, de travailler avec eux, mais il faut se donner une priorité. Et si on ne se donne pas une priorité qui est avant tout d'apporter l'accès aux soins aux Français, qui sont pratiquement 10 millions maintenant à avoir un problème énorme d'accès aux soins, et notamment aux médecins généralistes, eh bien, en fait, nous ne répondons pas à ce que souhaitent les Français, enfin, nos populations. D'un autre côté, vous savez, aujourd'hui, depuis 10 ans, quand je regarde un peu en arrière, on a fait beaucoup pour le milieu médical, on a fait de l'incitatif, on a dépensé beaucoup d'argent pour en fait aujourd'hui peu de résultats. Alors si on ne l'avait pas fait cet incitatif, on serait certainement dans une situation beaucoup plus catastrophique que celle d'aujourd'hui.
Alors justement, ceux qui sont plutôt contre, en tout cas qui ont mobilisé, parlent de coercition et demandent plus d'incitation encore.
Mais non, je leur réponds non. Il y a 2 raisons, c'est que l'incitation, on l'a fait, comme je viens de vous le dire, ça a été la pratique connue et exercée depuis 10 ans. Et puis, nous sommes aussi un pays exsangue financièrement, on n'a plus d'argent public à dépenser. Ce qu'on dépense aujourd'hui, c'est de la dette. Donc, il faut quand même, j'allais dire, aujourd'hui, passer à une autre étape. On n'oublie pas l'incitatif. Il ne suffit pas d'annuler et de remettre en cause tout ce qui existe actuellement, mais d'aller vers un certain nombre d'échanges, de deals entre, oui, on vous facilite, on vous aide pour certaines choses, mais on vous oblige aussi, on va vers une part de coercitif. Ça ne m'a jamais fait peur et c'est quelque chose que j'accepte et qu'il ne me pose pas de problème d'éthique.
Bon, les propositions en détail, justement, quelles sont-elles ?
Alors, je crois que on entend tout et son contraire aujourd'hui. Disons-le clairement. Première chose, c'est d'abord de régulariser un certain nombre de médecins qui sont sur le territoire, ce qu'on appelle les PADU, par exemple. Ce sont des médecins qui sont hors de l'Union européenne. On a un bataillon assez important. Ces gens-là, il faut arriver rapidement à les régulariser. Et quand je dis régulariser, la situation, effectivement, il y a les problèmes de carte de séjour, c'est sûr, mais ça, c'est pas un souci. Mais c'est la validation de leur équivalence, ouais. Exactement, qui prend un temps fou aujourd'hui et qu'il faut régler dans un premier temps. Il faut poursuivre, on en avait déjà parlé ensemble, il faut poursuivre le partage des compétences avec les 2 professions, pharmaciens et infirmiers dont on a. Il faut, et ça, le ministre actuel Neuder est assez à l'écoute, il est même très à l'écoute de tout ça, il faut qu'on casse tout numerus apertus. Il y avait le numerus clausus avant, il y a le numerus apertus, il faut recruter le nombre de médecins nécessaires. Et puis, il faut commencer de réguler un peu cette profession de médecin. Je rappelle aux auditeurs que les médecins aujourd'hui en France sont la seule profession de santé qui n'est pas régulée. Toutes les autres professions de santé sont rentrées dans la régulation. Par exemple, au 1er janvier de cette année, les chirurgiens dentistes sont rentrés dans une forme de régulation. Donc nous, nous proposons deux choses, et ça va être discuté en mai. Une première idée, c'est que dans les territoires qui sont bien dotés, en fait, bon, on va pas choquer encore une fois le monde médical. On va dire, vous êtes généraliste, vous voulez vous installer dans ces territoires ? Parfait, on vous laisse faire. Mais vous avez une obligation d'intervenir dans un cabinet secondaire qui sera situé dans un territoire sous-doté. Un cabinet secondaire ou finalement un temps de présence, tout ça, ça sera à discuter après. Donc vous êtes généraliste, on vous autorise, mais vous allez obligatoirement intervenir dans un territoire sous-doté. Vous êtes spécialiste, alors là on change un peu de méthode, c'est-à-dire que dans des territoires où correctement, je veux dire, les spécialistes sont là, c'est un pour un. C'est-à-dire que vous avez un spécialiste qui part en retraite ou qui déménage, à ce moment-là on vous autorise à vous installer. Donc c'est un pour un, avec une exception, parce qu'il ne faut quand même pas être buté. Vous avez souvent dans ces territoires-là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une augmentation de la population, donc on va laisser à l'ARS le soin de pouvoir dire si effectivement il faudrait pas un spécialiste de plus dans la même spécialité. Donc voilà, laisser un petit peu de marge de manœuvre. Donc c'est ces deux systèmes-là, les faire travailler concomitamment. Après, on va légaliser, régulariser le cabinet secondaire. Aujourd'hui, l'ordre des médecins s'oppose au cabinet secondaire sous prétexte qu'il n'y aurait pas la continuité des soins pour les patients. C'est un faux argument. Il n'est pas justifié, puisqu'on a tout un tas de systèmes aujourd'hui qui font que vous avez, avec les carences, vous avez des patients qui ont des médecins, mais qui ne sont pas toujours suivis par le même médecin. Donc, on va dire que cet argument-là tombe et qu'un cabinet secondaire peut tout à fait fonctionner avec le médecin qui se déplace, un médecin remplaçant, enfin, tout un système qui fait que, on va dire, dans un coin sous-doté, il n'y a pas obligation d'avoir un cabinet ouvert en permanence. Il peut être ouvert de manière partielle. On va aussi, certainement, je pense, arriver vers un système qui fait aussi que, quand on regarde un peu ce qui se passe aujourd'hui, vous avez un argument qui dit, vous savez, ce terme déserts médicaux, je le déteste. Parce que j'ai vu les manifestations et je regarde les pancartes qu'ils portent, les jeunes internes, etc. Je discute avec eux, hein, parce que je les vois régulièrement. Je vois aussi ce que dit une certaine presse plutôt parisienne. Je vois aussi des humoristes aussi qui tournent les choses en dérision, en ne retenant que le mot désert. Et donc désert, c'est pour eux, il y a rien du tout. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de crèche, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de cinéma, il n'y a rien du tout. Et donc cette image-là, elle est véhiculée dans le monde universitaire. Et donc ce monde universitaire,
ça donne pas envie,
eh bien, ne donne pas envie, n'entraîne pas les jeunes à s'installer parce qu'ils s'imaginent effectivement que c'est le vide sidéral. Alors regardez le département de l'Allier. Dieu sait que ce département offre à ses populations un nombre d'activités, de loisirs, de services absolument considérable. Donc il faut aussi casser cette image-là qui pèse et qui finalement alimente cet esprit anti-régulation, anti-rural. Et je rappelle aussi que les déserts médicaux, que ne sont comme l'expression que je viens de dire n'est pas la bonne, mais que ces territoires-là sont aussi en sous-dotation dans les périphéries des grandes agglomérations.
Bon, toutes ces idées, ces propositions ont plu donc en haut lieu, au Premier ministre.
Absolument.
Du coup, ça va être débattu au Sénat.
Oui.
Les 12 et 13 mai, donc la semaine prochaine.
Exactement, la semaine prochaine.
Ensuite, comment ça peut se passer
Écoutez,
une loi sortira.
Alors, comment ça va se passer? J'ai bon espoir, puisque le gouvernement vient nous donner la procédure accélérée sur ce texte-là. Donc, quand le gouvernement donne et valide la procédure accélérée sur des textes de loi, ça veut dire qu'il va valider les décisions. Alors, ce que je vous dis là, ça va être amendé, ça va être discuté. Je ne sais pas ce qui va en ressortir, mais grosso modo, voilà quand même les directions que nous allons prendre. Et puis, il y a un élément qui va aussi être très important, mais qui date de 2023, et c'était d'ailleurs une proposition du Sénat. Ce sont, pour vos auditeurs, il faut savoir que l'année prochaine, en 2026, va sortir la première vague de médecins juniors. Les médecins juniors fonctionnent comme un médecin de manière enfin autonome pour ça, sauf qu'ils ont encore, c'est leur dernière année, si vous voulez, c'est la fameuse quatrième année universitaire. Et il y en a 3900 qui vont sortir. Cette première vague là va sortir en novembre. Nous préparons aujourd'hui déjà leur installation, par exemple, dans le département de l'Allier. Et donc, évidemment, ces jeunes, nous allons les orienter vers des territoires qui sont sous-dotés. Ça pourra représenter, en grosso modo, 25 à 30 jeunes médecins pour le département de l'Allier. Certes, ils sont
et
là
ça,
pour une année.
On en est sûr.
C'est décidé.
Ils vont pas pouvoir dire non, moi, je préfère aller en Côte d'Azur.
Si, ils vont nous dire ça.
Oui.
Mais il va falloir tenir là-bas, ouais. Puisqu'effectivement, ils doivent être installés dans des territoires qui sont sous-dotés. Et grosso modo, j'allais dire, le bassin de Montluçon va en bénéficier. C'est
certain. Médecine générale.
Médecine générale. Alors, hôpital, c'est autre chose. Ouais. Voilà, je rappelle que moi, je ne suis pas la médecine hospitalière. C'est pas mon truc. Ça, c'est vraiment purement la commission des affaires sociales qui s'occupe de ça. Donc, on est vraiment dans la médecine de ville et on reste dans ce cadre-là. Donc, toutes ces choses, finalement, additionnées, devraient véritablement, concrètement, apporter un certain nombre de solutions aux habitants du bassin de Montluçon et puis du département de l'Allier. Je rajoute aussi que dans les discussions qui vont avoir lieu, nous tenons beaucoup à mettre en place une structure où les conseils départementaux auront leur mot à dire sur les zonages nécessaires des médecins sur le territoire. Ça fait partie du texte de loi. Ça veut dire qu'on va pas laisser ça. Il ne faut pas laisser ça qu'aux professionnels et qu'à l'ARS, à l'Agence régionale de santé.
Oui, parce que tous ces médecins juniors, ils vont tous à Vichy, par exemple.
Oui, alors Vichy, qui a d'ailleurs, on a une image comme ça, mais en fait, Vichy est en carence aussi médicale, en généraliste et en spécialiste. Mais effectivement, c'est-à-dire que si on laisse toujours le milieu travailler, eh bien, on n'avance pas. Donc, c'est pour ça que les conseils départementaux, nous proposons qu'ils fassent partie, finalement, des instances de décision de la répartition et des besoins médicaux sur les territoires de l'ensemble du pays, bien sûr.
Bon, très bien. On a fait à peu près le tour, même s'il y a encore plein de choses à dire. Donc, des débats à venir au Sénat la semaine prochaine par rapport à ces propositions. Puis, on vous attend au tournant, du coup, pour voir ce que
Mais
ça
bien
dira.
Sûr, vous savez, en politique, seul le résultat compte.
Merci encore, monsieur le sénateur Bruno Rojan, d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Bonne journée.